Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour mesdames, messieurs. Eh bien, nous allons donc reprendre notre enquête sur la fonction guerrière et la fonction aquatique des fravagies que nous avions entamées. Pour résumer les premiers résultats de nos recherches qui ont été exposés lors de la dernière leçon, nous devons nous souvenir que toute notre information sur la fonction guerrière et sur la fonction service des eaux des fravachis se situe dans ce que j'ai appelé la zone interstitielle de la partie hymnique du Yasht 13. En quelque sorte, la partie hymnique du Yasht 13 se distribue. Elle est ponctuée, comme nous l'avons vu, par les trois récits cosmogoniques. Mais cette partie hymnique se compose de trois parties de longueur à peu près égale, approximativement égale. Donc la partie des... Excusez-moi. La partie des trois variantes du premier récit cosmogonique qui se termine avec la strophe 29. Alors la zone interstitielle où se trouve l'information que nous sommes en train d'analyser se situe entre les strophes 30 à 64. Avec la strophe 64 commence la dernière partie de l'hymne qui prépare au troisième récit cosmogonique. Alors voici, donc nous avons distingué trois types d'informations à l'intérieur de cette partie. Dans une partie que j'ai baptisée la zone des quartets courts, c'est-à-dire des quartets composés d'une strophe seulement, parfois de trois au plus, nous avons une description de la fonction guerrière des fravachis extrêmement appuyée. Enfin, vient un domaine où les quartets deviennent plus longs, se refont plus longs, et dans le premier d'entre eux, nous trouvons une description de la fonction service des eaux, avec le rôle des fravachis consistant à lâcher entre le ciel et la terre l'étoile Satavaisa qui veille sur la chute de la pluie. L'expression « lâcher », je vous l'avais signalé, a des connotations sexuelles. Ça fait référence à l'époque qui est aussi décrite ailleurs dans l'Avesta, où on lâche les béliers parmi les brebis. Enfin, retour à la fonction guerrière. Troisième information, c'est que les fravachis sont aussi juges et partis dans des conflits inter-mazdéens ou inter-iraniens, ce qui revient au même probablement. Elles interviennent dans des conflits entre des gens qui, en principe, sont religieusement aussi compétents les uns que les autres, ce qui fait leur particularité à l'intérieur du panthéon mazdéen. C'est évidemment le corollaire de leur nombre, et puisqu'elles représentent les hommes, un aspect des hommes au moins, elles se répartissent entre les divers cercles de l'appartenance sociale qui sont, je vous le rappelle, télescopiques dans les conceptions iraniennes, où l'on voit une articulation, ce qu'on a appelé les cercles concentriques de l'appartenance sociale, la famille, le clan, la tribu, la nation. C'est un corollaire, évidemment, de leur attachement au cercle de l'appartenance sociale. Les fravachis sont des divinités naturellement partiales, et leur activité guerrière se situe à l'intérieur de cet attachement à un groupe social particulier. Enfin, la suite du texte nous informe sur une des conséquences de cette partialité, n'est-ce pas ? C'est que les fravachis, dans les descriptions qui nous sont faites d'elles, sont des divinités qui ont pour particularité d'être extrêmement agressifs dans leurs exigences rituelles. Aucune divinité mazdéenne, bien entendu le sacrifice, ça va de soi, c'est implicite, doit être rendu avec toutes sortes de qualités positives. Mais les Fravashis manifestent une certaine vigueur dans l'expression de leurs exigences rituelles. Posent la question de savoir qui va leur sacrifier, qui va leur offrir une louange, qui va leur faire toutes sortes de cadeaux. Elles exigent cela et, selon d'autres textes, elles s'en emparent. Le verbe « exiger » est le verbe « is » exiger donc de le sacrifice et le chant d'adoration de la part de ses fidèles. Elles l'attendent avec une certaine impatience. C'est un verbe, c'est curieux, qui est « paiti mar » ou « shmar » selon que l'initiale mobile « s » est conservée ou non. Le verbe qui définit l'attitude impatiente de la divinité envers les hommages lui sont rendus. Donc une certaine vigueur dans leurs exigences rituelles. Enfin, dans le quartet 22, le dernier de la partie hymnique, qui est très long, et qui se termine par le troisième récit cosmogonique, on voit se réunir tous les éléments que nous avons établis jusqu'ici, c'est-à-dire l'activité guerrière, la distribution de l'eau et la partialité. Je vous lis le texte en le traduisant, bien sûr, parce qu'il est extrêmement clair et explicite à cet égard. Lorsque l'eau déborde de la mer au vaste bord, au Spitama Zarathustra, vous voyez, on n'est plus dans le genre Yasna, hein, c'est Ahura Mazda parle à Zarathustra, donc nous avons probablement affaire à un fragment Frashna, où la question n'a pas été transmise, mais Ahura Mazda répond probablement à une question. Donc l'eau déborde de la mer au vaste bord. Alors les puissantes Fravashis des Achavanes s'avancent. Elles s'avancent nombreuses par centaines, nombreuses par milliers, nombreuses par myriades. Et elles cherchent à obtenir l'eau, chacune, pour sa propre famille, pour son propre clan, pour sa propre tribu, pour sa propre nation, en disant « Puisse la nation qui est la nôtre ne pas se trouver en détresse et se dessécher. » Elles combattent, ah oui, elles combattent dans des combats pour le propre endroit où elles vivent, comme un homme pourrait essayer de maintenir propice à l'habitation l'endroit où il vit, comme un guerrier ferme frappe de son arme loin d'un bulletin pour conserver un butin bien rassemblé. Et celle qui l'emporte, emporte l'eau pour leur propre famille, etc. etc. Voici, je crois que c'est assez clair. La partialité des Fravashis se traduit littéralement par des rivalités entre les Fravashis. Parce que nous avons affaire ici à un aspect évidemment de la rareté de l'eau dans les territoires iraniens. Assez curieusement, le sens de ce texte n'a pas été perçu toujours avec beaucoup de lucidité. Je crois qu'il y a eu un barrage psychologique où on pouvait envisager que des divinités mazdéennes puissent se combattre entre elles. Tout d'abord, il nous faut bien sûr nuancer la notion de combat. Le verbe utilisé est le verbe « yud ». Le verbe « yud ». Le verbe « yud » ne veut pas nécessairement dire « combattre ». Il a une connotation beaucoup plus nuancée. Il s'agit de rivaliser, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de sortes de joutes. Ce n'est pas un concours, n'est-ce pas ? Nous avons vu la semaine passée, lors du séminaire, que il y avait des allusions à des joutes oratoires. C'est autre chose que des joutes d'armes, mais la réalité peut exister aussi. Donc, les Fravashis rivalisent entre elles dans des sortes de concours armés pour s'emparer de l'eau au bénéfice de leur famille et des cercles d'appartenance sociale qui sont les leurs. On ne l'a pas bien vu, peut-être pour cette réserve, mais aussi, je ne sais pas pour quelle raison. Malandra, par exemple, dans son édition, commente ce passage en faisant remarquer que simplement il y a combat pour l'eau, mais que nous ne savons pas contre qui. L'adversaire des Fravashi n'est pas mentionné. C'est un faux problème. C'est des combats entre elles. Il y a des signes linguistiques extrêmement clairs pour cela. C'est pas une insistance très lourde sur la réflexivité. Chaque Fravashi, chacune d'entre elles, dit-on, chacune d'entre elles, se bat pour son propre. Et deux termes d'adjectifs possessifs réfléchis sont utilisés, c'est hava, indien zva, propre, et ce qui appartient en propre, et qui est kwaipaitia. Cette idée de cette focalisation, n'est-ce pas, sur ce qui appartient en propre à chaque Fravashi me paraît extrêmement claire. Il y a ici un combat pour obtenir l'eau pour chacune des unités sociales qui sont concernées par cela. Maintenant, donc, on peut considérer comme trois aspects indissociables de la fonction des Fravashi. Leur fonction guerrière, qui est très clair dans les descriptions. Leur fonction de service des eaux, qui est exprimée de manière extrêmement explicite dans plusieurs passages du Yash de 13, et aussi leur caractère profondément partial. Indépendamment du caractère partial, qui est ma petite contribution à l'édifice, je vous rappellerai qu'en 1953, dans son article du journal asiatique, Dumézil avait très bien discerné l'alliance indissoluble dans la fonction des Fravashi entre l'activité guerrière et le service des eaux. L'expression « service des eaux » est d'ailleurs de lui. Il avait très bien vu, et il avait vu dans cette alliance entre ces deux fonctions divines, qui, en tout cas pour un trifonctionnaliste, n'est-ce pas, ne sont pas nécessairement compatibles, puisque l'activité guerrière définit de manière tout à fait propre la seconde fonction, tandis que le service des eaux évoque bien entendu la troisième. Cette alliance entre des fonctions qui se répartissent à l'intérieur du cadre trifonctionnel dans d'autres secteurs, il avait vu une particularité tout à fait spécifique de leur figure et l'avait fait conclure à l'identité fonctionnelle, du moins avec la troupe védique des dieux Marut, qui sont eux aussi caractérisés, il suffit d'ouvrir un hymne aux Marut, les choses sont très claires, par allusion bien sûr, mais c'est en permanence un mélange, n'est-ce pas, de récits mythologiques qui fait intervenir la turbulence guerrière de cette troupe de jeunes dieux que Dumézil a appelé les seigneurs colorés, car ils sont extrêmement. Ils portent des bijoux, ils se déplacent en dansant, ils portent des vêtements très colorés. C'est une image qui est véhiculée en permanence par leur hymne, et ils font tomber la pluie. Ils font tomber la pluie partout où ils passent. Alors, ici, qu'est-ce que cela. Je vais m'arrêter à ce détail, parce que sur quoi peut bien reposer l'alliance entre l'activité guerrière et le service des eaux ? Dumézil ne l'a pas dit. Chez les Marut, c'est clair. Les Marut sont une personnification du vent d'orage. C'est l'orage. Ce sont les dieux de l'orage. Donc, le tumulte, le bruit de l'orage est assimilé, bien sûr, à la turbulence guerrière. Et le service des eaux fait partie, bien entendu, de la réalité de l'orage. On n'a jamais prononcé le nom de l'orage à propos des Fravashi. Personne. Jamais. Dumézil lui-même non plus. Là aussi, je me suis interrogé du point de vue sur les fondements psychologiques de la réserve que chaque spécialiste a eu toujours à parler d'orage lorsqu'il s'agit de la Vesta. Jamais on a envisagé la réalité de l'orage dans la Vesta. Pourquoi ? Les raisons sont sont linguistiques d'une part. Le verbe tonner d'abord, le verbe tonner qui est le verbe tan en indien, n'est peut-être pas utilisé. Il l'est peut-être une fois, et c'est sans aucune référence au phénomène de l'orage, puisque c'est dans la formation d'un nom propre, donc le nom de quelqu'un. Donc il n'y a pas d'allusion, en principe, au phénomène de l'orage dans la Vesta. Pourtant, la réalité pourrait-elle s'appliquer au yashte 13 et à la figure des Fravashi? Il y a deux indices. Ils sont ténus, d'une discrétion extrême. D'abord, le premier est bien connu. Le premier indice est connu. C'est leur association, à la fois dans le tishter yashte et dans le yashte 13, avec le vent. Avec le vent. La divinité Vata, le vent, n'est pas une divinité fréquente, qu'elle ait reçu le patronage d'un jour du mois. La divinité Vata intervient dans le mécanisme de production de la pluie en avant-dernier lieu. D'abord l'étoile Tishtriyat, selon les récits que je vous ai fait la fois dernière, l'étoile Satavaisa. Ensuite, le vent pousse les nuages, puisque Satavaisa fait jaillir les nuages hors de la mer au vaste bord, la mer Vorukasha, le réservoir céleste des eaux. Satavaisa fait donc sortir les nuages, le vent les pousse, et puis les Fravashi, c'est leur rôle, distribuent. Elles distribuent, après un combat, comme nous venons de le voir. Donc, Les deux dernières opérations dans le processus de production de la pluie sont le fait du vent et des Fravashi. Fravashi interviennent après le vent, ténu. Il y en a un autre. Il y en a un autre qui est plus complexe et peut-être plus parlant, une seule fois. Lorsque, au début de ces leçons, je vous avais parlé de la fonction guerrière que l'on invoquait si souvent pour définir les Fravashi, je l'avais illustré par la strophe 45. C'est une des strophes les plus explicites. C'est celle qui nous les décrit comme des guerriers lourdement armés, à la fois d'armes offensives et d'armes défensives. Elles ont des casques d'acier, enfin d'acier disons plutôt de bronze par référence à l'époque. Elles ont des armes de poing de bronze. Elles ont des cuirasses de bronze. Elles combattent et elles portent une arme que nous ne pouvons pas identifier, qui pourrait être une épée ou une sorte de masse d'armes, pour tuer les démons. Donc c'est une strophe extrêmement descriptive de la fonction guerrière. Mais il y a quelque chose d'assez curieux, une notation assez curieuse. Lorsqu'il est question des combats auxquels elles se livrent dans cette tenue, le mot utilisé pour combat ici, c'est le mot l'effort pour briser l'obstacle. Il les définit, cet effort pour briser l'obstacle, ce combat, comme Aouchni Aiwidata. Littéralement, harnaché de lumière. Harnaché de lumière. Si je traduis. Honnête, mais sans introduire beaucoup de sens. Or, ceci nous pose plusieurs problèmes en soi. Il faut noter d'abord que l'hymne aux Fravashi, tout spécialement, dans le cadre de la littérature avestique elle-même, pratique assez volontiers des figures de style telles que la brachylogie ou l'hypallage. Bien sûr, un guerrier est puissant, et la puissance guerrière se définit par l'adjectif ougra. Ougra. Bien, ce terme ougra sera transféré, hypallage, au nom du combat lui-même. Peshana. Les peshana, les combats, sont dits puissants, ougra. Ce sont bien sûr des combats livrés par des guerriers puissants. Brachylogie, hypallage, hein, ça tient un peu des deux. Alors ici, Aouchni Aiwidata, nous devons saisir, il y a aussi dans, ici une brachylogie hypallage. Car Aiwidata, Aibida, participe passé passif, Aiwidata, est un verbe extrêmement spécialisé. Il s'agit de harnacher des chevaux. c'est-à-dire de les pourvoir de l'appareil qui permettra de les monter ou qui permettra de leur faire tirer un char. Je ne sais pas avec précision de quoi ils retournent, mais c'est le harnachement des chevaux, de chars ou que l'on monte. Donc, il s'agit de combats harnachés. Le terme harnaché doit être pris au sens fort, et ils ont pour harnais de la lumière. Il faut comprendre, bien sûr, le combat, Verotreknia, qui est livré sur des chevaux, dans des chars, harnachés de lumière. Il y a hypallage, brachylogie. Mais alors, pourquoi la lumière? Je crois que c'est l'éclair de l'orage, n'est-ce pas? L'utilisation, les choses sont un peu noyées à cet égard, parce que le vocabulaire qui sert à désigner la lumière est relativement perturbé en avestique, pour des raisons qui seraient d'ailleurs intéressantes de connaître, hein, de percer. Malheureusement, nous manquons d'éléments de réflexion à cet égard. On n'exprime pas la réalité de l'orage. D'autre part, un vocabulaire où l'expression de la lumière est perturbée. Ce sont très certainement deux facteurs qu'il faut mettre en corrélation, mais dont les ressorts psychologiques nous échappent. En effet, quels sont les termes qui expriment la lumière en avestique? Un terme, c'est la racine rouch. Les dérivés qui servent à l'exprimer, la lumière, sont dérivés de la racine rouch, elle est homonyme de l'indien, du sanskrit. Dérivé, abstrait, neutre, raucha, la lumière. Mais ce mot va prendre une connotation très vite, en avestique, une connotation différente. C'est la lumière du jour, c'est la lumière diurne. C'est la lumière qui est produite par les astres du monde diurne, donc surtout par le soleil. Et finalement, ce sera la désignation du jour, simplement un jour, par opposition à une semaine ou à un mois, un jour raucha, littéralement une lumière. Ce mot déjà n'a pas d'équivalent très clair en indien. On ne voit apparaître en sanskrit que très tardivement et en composé l'équivalent rochas, mot tardif. Puisque l'indien utilise pour la lumière diurne toujours son vieux nom du ciel, yao, qui est à la fois le nom du ciel et celui de la lumière diurne, qui est remplacé par raucha en avestique. Ensuite, le terme le plus usuel pour désigner la lumière, qui n'existe que dans l'Avesta récent, d'ailleurs, il n'est attesté que dans l'Avesta récent, c'est rauchna. Rauchna. Or, rauchna est par sa formation dérivée en na, un adjectif. C'est donc un adjectif qui assume la fonction substantive pour désigner la lumière. Inversement, l'adjectif signifiant lumineux, rauchnu, et par sa formation, un nom, qui existe d'ailleurs en indien, rauchishnu. Rauchishnu, lumineux, substantif devenu adjectif. Donc, quelque chose se produit dans la distribution des fonctions grammaticales, mais aussi dans les choix lexicaux, le choix de la racine. Or, ici, rauchni, soit dit en passant, nous allons faire une petite correction textuelle. Il est assez clair que nous devons corriger cette forme qui se trouve dans la grande édition de l'Avesta et dans le dictionnaire de Bartholomé. Il s'agit naturellement de Rauchnu Ayuidata, il faut le nom usuel désignant la lumière. Mais ceux d'entre vous qui font de l'avestique savent que cette correction n'est pas lourde. Elle n'est pas très lourde car le signe notant la voyelle I et la voyelle U, ces signes-là sont très semblables. Il s'agit de signe I est un peu plus court, un peu plus bref, d'un mouvement un peu plus bref. Et de toute manière, nous trouvons dans la plupart des manuscrits, c'est le cas ici, une variation I, U, E. Ce sont les trois variations vocaliques quasi arbitraires qui peuvent marquer la réalisation de la voyelle finale du premier terme du composé. Donc, la situation, je pense, est ici un de ces faits que nous avons relevé plusieurs fois en avestique. Nous l'avons fait pour le nom des Fravashi elles-mêmes, hein, et la notion de choix rituel à l'époque de la cosmogonie. Qu'est-ce qui, dans un texte religieux archaïque, est implicite et qu'est-ce qui est explicite? Ce n'est pas nécessairement, les choix à cet égard ne sont pas nécessairement ceux que des hommes modernes feraient. C'est pas dans le commentaire de l'Aunavayirya, je vous l'ai rappelé la dernière fois, le seul mot qui n'est pas commenté est le terme vairyo, c'est-à-dire celui du choix sacrificiel, qui joue un grand rôle dans toute l'histoire. Le seul terme qui exprime ce choix sacrificiel est le seul aussi qui n'est pas commenté, qui n'est pas relevé par le commentateur. Alors avons-nous, avec les Fravashis et leur rapport à l'orage, le même effacement qui peut être, dont nous ne percevons pas bien les raisons? Je ne sais pas. Les raisons sont encore moins perceptibles. S'agit-il de laisser quelque chose à deviner, c'est-à-dire d'opérer un jeu littéraire? C'est une possibilité. Y a-t-il une sorte de tabou, enfin que, puisque l'orage est désirable, que c'est de lui que provient la pluie, que les tribus attendent avec tant d'impatience, ne va-t-on taire son nom afin de ne pas bloquer le processus? C'est une possibilité. Je ne ferai pas de choix, je ne sais pas. Je relève seulement ceci. Mais il y a, malgré tout, des indices ténus, eux aussi volontaires. Il faut tout de même que l'on sache de quoi l'on parle. Et la proximité du vent, d'une part, dans l'action de distribution de l'eau, et d'autre part, la mention d'un harnais de lumière, comme si ces Fravashis guerrières disposaient de chevaux dont l'éclair était le harnais, n'est-ce pas ? C'est une image qui est malgré tout une image très maroutienne. Une image maroutienne. C'est le même rapport avec le vent d'orage que nous trouvons dans tous les cas. Autre chose, bien sûr, les maroutes, si la fonction est la même, y a-t-il nécessairement héritage, un héritage commun ? Indépendamment du fait, bien sûr, que les deux figures divines soient très différentes. Dumézil, certainement, l'aurait pensé. Vous me diriez, c'est son choix professionnel. Dumézil étudiait ce type d'héritage, bien sûr, oui. Mais on peut, il faut relever plusieurs choses. D'abord, les maroutes, c'est un de ces noms divins, védiques, qui n'a pas d'explication linguistique immédiate. L'expliquer étymologiquement relève de ce que j'appelle l'étymologie volontariste. On peut toujours trouver une étymologie si on le souhaite. Le problème est de savoir s'il le faut. Cela est contraire à la pratique avestique sur laquelle j'ai lourdement insisté, qui fait que toutes les divinités mazdéennes portent un nom lisible, compréhensible immédiatement. On ne souligne pas, et on a même peut-être tendance à gommer cette réalité en parlant d'étymologie lorsqu'il s'agit simplement de reconnaître, d'identifier le nom que portent les divinités et qui n'a rien à voir avec le processus diachronique du changement étymologique. Bien, donc cela, je ne le sais pas. Pour les problèmes des il y a une différence donc. Le problème des maroutes, d'ailleurs, le nom des maroutes a été expliqué il y a quelques. On a vu dans les maroutes le nom du dieu Mars. Le nom du dieu Mars, car la forme archaïque du nom de la divinité du Mars latin est Mavort. Mavort, ce qui rapproche phonétiquement de manière assez grande le nom de cette divinité guerrière du nom des maroutes. Mais malgré tout, il reste une difficulté irréductible. Il n'est pas possible de réduire phonétiquement parfaitement les deux noms propres l'un à l'autre. Ça n'est pas possible. Une autre explication, peut-être qui est très jolie, mais qui est probablement fort sollicitée, c'est de voir dans le nom des maroutes le nom de la mer en premier terme et le degré zéro de la racine vat, qui signifie souffler. Ce n'est pas celle du nom du vent. Celle du nom du vent, c'est va. C'est un autre type de souffle. Donc, ceux qui soufflent depuis la mer. Je crois que là, c'est se laisser inspirer un peu trop, par, peut-être même par une image que nous livrerait le texte avestique lui-même. Hein. Cette pluie qui vient depuis la mer céleste, n'est-ce pas? Je crois que peut-être le Yashta 13 a influencé cette explication, puisqu'elle est celle de l'indianiste Paul Thiem, qui connaissait extrêmement bien la littérature avestique elle aussi, et qui était un grand spécialiste des étymologies poétiques et fonctionnaliste, n'est-ce pas, le nom des divinités correspondant à la fonction qu'ils exercent. Mais en dehors de ces deux explications, il n'y en a pas. Toutefois, les Marouts ne sont pas une divinité indienne au point de vue géographique. Ce ne sont pas des divinités indiennes, puisque le nom de Marout est attesté dans l'onomastique du Proche-Orient au XIVe siècle avant notre ère. Je vous rappelle que nous connaissons par les sources hittites un certain stock de noms propres en usage dans le royaume du Mitanni, c'est-à-dire dans cette partie mésopotamienne de la Turquie d'aujourd'hui, la région de la ville d'Urfa, qui constituait le royaume du Mitanni, et bien des Mitanniens, un certain nombre de Mitanniens portaient des noms dont il est aujourd'hui, je crois, sans aucun doute assuré qu'ils ne sont pas iraniens, mais qu'ils sont indiens. Donc, au XVe siècle avant notre ère, des indiens linguistiques, non pas des indiens géographiques, connaissaient la figure des Marouts, puisque c'est un théophore, hein, c'est le nom d'un dieu donné à des hommes, ce qui était une pratique de l'onomastique indo-iranienne assez courante. Donc, vieille figure de la mythologie indienne, constituée dès lors que les Indiens n'avaient pas atteint leur habitat historique, mais qui, c'est l'alternative posée par Paul Thiem lui-même, ne sont pas nécessairement des divinités d'origine indo-européenne, car les indo-iraniens ont pu, sur leur migration, dont nous ne savons rien, vers les terres aujourd'hui iraniennes et indiennes, adoptées des peuples rencontrés, un certain nombre de divinités. En tout cas, aucune étymologie ne nous le montre. Alors, il faut bien sûr accorder une grande importance à autre chose pour faire la différence entre les deux figures. Il faut bien sûr se rendre compte que si le nom des Marouts est inexplicable, celui des Fravashi est éminemment clair et qu'il relève de la spéculation théologique. Rien de tel, bien sûr, chez les Marouts indiens. La figure des Fravashi, c'est d'abord une allégorie métonymique de l'être pensant, la capacité de faire un choix. Ça, c'est une formation totalement mazdéenne. Elle est propre au mazdéisme. Même si la notion de choix rituel existe en Inde, nous l'avons vu lorsqu'il a été question d'identifier le mot, ce n'est pas avec les mêmes résonances. Ce ne sont pas les mêmes résonances. En Inde, c'est cette faculté qui fait que l'on prend place dans la succession éternelle des sacrifiants, depuis le début de l'humanité jusqu'à peut-être, puis nous ne parlerons pas de la fin des temps pour l'Inde, mais jusque le plus lointain futur. C'est donc autre chose qui... Il y a une autre coloration dans l'idée de choix naturel. Alors, comment faut-il voir les choses? Est-ce que cette formation théologique, l'accession du choix sacrificiel au rang de divinité, a pu recueillir les prérogatives de divinités précédentes, ou au contraire les différences climatologiques entre l'Inde et l'Iran ont-ils fait que toute la mythologie de la distribution de l'eau a été bouleversée? C'est sans aucun lien avec l'héritage indo-européen ni même indo-iranien réparti dans d'autres cadres conceptuels. C'est une autre possibilité, n'est-ce pas? On pourrait considérer dans ce cas-là que peut-être, n'est-ce pas, la C'est le seul fait, de Malindra penserait sans doute cela, hein, que le fait que les divinités, que les Fravashis, avec leur lien persistant avec les groupes sociaux, auxquels elles ont appartenu, sont naturellement les divinités distributrices de l'eau. Hein. Que cette distribution de l'eau est liée au phénomène de l'orage, que le phénomène de l'orage évoque la turbulence guerrière et que cet agrégat ancien se reconstitue dans un nouveau cadre, c'est une possibilité, je vous avoue, n'avoir pas tellement envie de discuter des problèmes comme ceux-là qui sont finalement insolubles, car il y a une logique interne, n'est-ce pas ? Il y a certainement un héritage. On peut défendre la notion d'héritage dans ses fonctions, mais il y a aussi une logique interne qui amène le regroupement d'un certain nombre de facteurs qui l'amène à se reconstituer d'une façon quasi identique. Ce n'est pas cela, mais je voudrais aussi ici maintenant faire encore une autre remarque à cet égard. C'est que la fonction guerrière, dont il a été tellement question et que depuis maintenant plusieurs leçons, je vous invite à considérer avec une certaine réserve. Puisqu'on a en permanence interprété le culte des Fravashis comme la combinaison d'un culte des ancêtres avec un culte des héros, de ceux qui restaient célèbres dans les ensembles sociaux par l'héroïsme qu'ils avaient manifesté au combat. Puisqu'on a tellement insisté sur cette donnée, n'oublions pas aussi que cette imagerie guerrière, cette imagerie martiale, comme dit Chervé, expression que je préfère, qui est tout de même vraiment qui constitue la trame du Yashta 13 des Fardashis, envisageons tout de même la possibilité que cette imagerie-là soit réellement une imagerie, c'est-à-dire une métaphore. C'est la métaphore de l'orage. Ce tumulte dans le ciel qui accompagne la distribution de l'eau, on l'exprime aussi par un récit, une narration où l'activité guerrière devient explicite. C'est vrai d'ailleurs de l'image des maroutes, hein, qui sont une véritable métaphore de l'orage. Les Fravashis sont un peu plus que cela, parce que justement, elles gardent la personnification de leur origine théologique de choix sacrificiel. Alors, je pense que nous avons tenté de recombiner ces fameuses fonctions qui paraissaient tellement hétérogènes de cette manière, l'une avec l'autre. On ne voudrait pas peut-être de ne pas me prononcer sur les questions d'origine. Je ne le peux pas. Je ne me sens pas en mesure de le faire. J'ai simplement voulu vous montrer comment se sont recombinées les différentes fonctions. Il nous reste du chemin à parcourir. Il nous reste bien sûr le chemin de l'origine des Fravashis à l'intérieur du cadre littéraire iranien, ce qui est autre chose. Car là, nous disposons, nous ne sommes plus tributaires de la seule spéculation, nous disposons des documents qui nous permettent tout au moins de déterminer, de tirer quelques indices des textes qui nous sont parvenus. Il nous restera aussi peut-être à dire quelques mots de l'autre partie de l'hymne, la partie non pas hymnique, mais la partie litanique. C'est-à-dire la partie où les noms propres sont énumérés, car elles vont peut-être nous livrer quelques éléments sur la conception particulière que le Yashta 13 se fait des trois derniers millénaires de l'histoire du monde, c'est-à-dire les 6000 ans de l'histoire humaine. Mais ça, c'est autre chose. Je voudrais aujourd'hui régler quelques petites questions mineures, quelques difficultés auxquelles j'ai déjà fait allusion, pas à toutes, mais à certaines, et qui restent pendant. La première, c'est qu'on a beaucoup discuté de savoir où habitaient les Fravashis. Où habitent-elles ? Est-ce dans le ciel ? Est-ce à l'intérieur des hommes même, puisqu'elles sont, ne l'oublions pas, aussi une âme ? Toutes les hypothèses ont été défendues. Ici, je pense que Malindra a raison, les fravachis sont célestes. C'est l'âme céleste des hommes. Les éléments qui nous permettent de cette conclusion, Yash de 13, strophe 42, elles viennent depuis le sommet du ciel, pour aider celui qui les appelle. Depuis le sommet du ciel. Strophe 70. Elles descendent, dirais même, elles fondent comme un rapace sur celui qui les appelle, non pas pour le dévorer, au contraire, pour l'aider. Mais c'est le mouvement du rapace qui entre dans la comparaison. Ni frou. Elles fondent sur celui qui les appelle comme un oiseau aux belles ailes. Donc, vient du ciel. Strophe 49. Elles descendent vers le clan. C'est lors de la fête du Hamaspasmaïdaya, qui semble être une fête de vénération des morts. Et ici, cet indice n'a pas été relevé parce qu'il y a une petite difficulté. D'abord, elles viennent vers le clan. C'est un ablatif, donc en principe, ce n'est pas une direction, ce n'est pas un objectif du mouvement. Et le verbe est avayeinti. C'est bien le verbe avai, sans connotation sexuelle cette fois-ci, comme c'est le cas pour l'étoile Tishtria. Mais il y a deux petites particularités grammaticales qui rendent cette expression extrêmement claire et qui veut dire tout simplement qu'elles descendent vers le clan, elles descendent du ciel. D'abord, le « halon » ne doit pas être pris en considération. Il est impossible en avestique d'avoir une succession de quatre voyelles brèves. Si on a une succession de quatre voyelles brèves, la première sera allongée. C'est le cas ici. Deuxième chose, l'ablatif. Là, c'est une petite particularité grammaticale, un ablatif de direction. Ça existe bel et bien. Ça veut dire, mais avec une nuance particulière. Pour prendre les exemples de Panini, le fait d'aller dans la forêt, si vous avez l'accusatif pour aller vers la forêt, ça veut dire que vous allez entrer dans la forêt. Mais si vous n'allez pas entrer dans la forêt, si vous allez rester à l'oreille de la forêt, donc aller jusqu'à la forêt, en quelque sorte, eh bien, ce sera l'ablatif. Il y a une nuance. Il y a une nuance grammaticale. Donc, il ne faut pas chercher à compliquer la situation. Ces fravachis de la strophe 49, ce sont des fravachis qui descendent vers le clan auquel elles ont appartenu. Alors, pour bien établir que cette représentation, que cet habitat céleste est celui qu'il faut retenir, n'est-ce pas, et que c'est une représentation qui a la vie dure, le Bundahishn 34.9 nous dit que la fravachie, c'est la part de l'homme qui se tient toujours devant Ormazd, donc la part de l'homme qui ne quitte pas l'habitat des dieux. Donc ici, nous devons, je vous rappellerai que le seul texte qui semblait dire le contraire était le Yasna 23.3, où l'on nous dit que, où qu'elle soit morte sur la terre, une fravachie se tient en permanence auprès d'un homme, d'une femme, etc., de sa famille. Il faut relativiser ce passage. Il est fait allusion dans ce passage-ci, simplement comme dans le Yasna 49, aux fêtes particulières que l'on donne en l'honneur des fravachis, en l'honneur des âmes des défunts, n'est-ce pas, et qui font qu'à ce moment-là, pour justement exiger de manière agressive le rituel qui leur est dû, les fravachis descendent vers ces et viennent se mêler aux vivants, le temps des cérémonies, et s'emparer des offrandes qui leur sont faites, comme dit d'ailleurs le texte. Alors, deuxième difficulté auquel j'avais fait allusion, j'y avais fait allusion, nous l'avions discuté, il le fallait bien, quel rôle les fravachis jouent-elles dans le concert des âmes? Y a-t-il confusion avec l'Urvan, parfois, avec la Daina? Bien, non. Non, je crois qu'il n'y a jamais de confusion. Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés montraient clairement que les fravachis sont une âme éternelle. Elles existent depuis la cosmogonie jusqu'à la fin des temps. C'est l'âme permanente des quatre âges de l'humanité. Le Urvan n'apparaît bien sûr qu'avec les hommes matériels vivants, puisque c'est l'âme interne. C'est donc une âme beaucoup plus limitée dans le temps. Elle est peut-être éternelle, elle n'est pas éternelle, elle est peut-être perpétuelle, comme le sont toutes les âmes dans toutes les religions du monde, mais elles ont un début. Les fravashis n'ont pas de début, sinon celui des choses elles-mêmes. Il y a bien sûr un passage qui identifie le Urvan, l'Yasna 16-16, les fravashis des... les âmes des morts, nous dit-on, ce sont les fravashis des justes. Oui, mais c'est un passage qui est en quelque sorte une description du paradis. Ce sont les âmes du paradis. L'équivalence qui est établie, ce n'est pas entre les deux notions. Ce n'est pas entre la notion d'Urvan et la notion de fravashi. C'est tout simplement l'équation avec les hommes morts. Une fois, bien sûr, que l'Urvan est séparé du corps, une fois qu'il s'est réuni à la Daina, il réside au paradis, il est tout aussi céleste que les fravashis, et dès lors, l'équation peut être faite sans aucun problème. N'est-ce pas ? N'oublions pas que un passage du début du Yasht 13, la strophe 17, nous a donné une gradation dans le pouvoir des fravashis. Et les fravashis les moins puissantes, nous dit le texte, sont celles des hommes morts. Donc, il y a comme une paralysie qui provient du poids qu'exerce le Rouvan sur la fravashie qui l'a rejoint. Mais c'est celui des hommes morts, et ce sont les fravashis les moins puissantes. Mais les fravashis ne se réduisent pas à cela, bien entendu. Alors, qu'en est-il de la Daïna ? On a identifié aussi dans certains cas l'âme fravashi et l'âme Daïna. Ici, je citerai surtout Narten. C'est dans cet article pourtant décisif de Narten que Narten a semblé poser une possible identification entre la Daïna et la fravashi. Du point de vue de l'histoire du monde, ne l'oublions pas, la Daïna est une réalité encore beaucoup plus limitée que l'Urvan. La Daïna ne survient dans l'histoire du monde qu'avec Zarathoustra. C'est Zarathoustra qui introduit la Daïna dans le monde. C'est donc une âme qui ne concerne que le dernier trimillénaire, qui n'est pas achevé. Par conséquent, la réalité temporelle de la Daïna est beaucoup moindre aussi. Autre chose, c'est que dans le rite, il n'y a pas que l'histoire du monde, il n'y a pas que la durée de l'histoire du monde, il n'y a pas que l'ordre de succession des événements dans l'histoire du monde, il y a aussi l'ordre de succession des événements dans le rite. Considérons la place du Fravarané dans le rite du Yasna Avestique. Là, le Fravarané, l'acte que définit Fravashi, faire le choix sacrificiel d'Ahura Mazda, se produit quand ? Eh bien, lorsque, d'une part, le sacrifiant s'est auto-immolé symboliquement en donnant son corps à Hauma. Avant de prononcer le Fravarané, le sacrifiant a dû, en dernière analyse, se réduire à son Urvan, et à sa pensée, bien sûr, car le Urvan pense. Il est devenu un mort, il est devenu l'âme d'un mort. C'est dans cet état qu'il prononce le Fravarané. Et le résultat du Fravarané, c'est qu'il se pourvoit d'une Daïna. Brutalement, la Daïna va apparaître et le sacrifiant va lui adresser, immédiatement après le processus du Fravarané, un éloge spécifique, l'Astouye, Astouye Daïnan. Il y a donc une sorte de succession dans cette histoire entre le rôle de l'Urvan, le rôle du choix sacrificiel qui n'est pas exprimé par Fravashi, c'est notre problème, à nouveau le problème de l'implicite qui est exprimé par le verbe Fravarané, et puis l'apparition d'une Daïna, de la Daïna du sacrifiant qui s'est constituée dans le cadre de sa profession de foi Mazdéen. Donc, ce sont trois éléments d'un processus. Ils ne se recouvrent pas. Ils ne peuvent que se recouvrir que dans le cas très spécifique de l'âme des morts, la fravashi des hommes et l'âme des morts. Mais ni dans le processus de développement historique du monde, ni dans le processus rituel, il n'y a d'équivalence entre les trois âmes. Alors, Donc, quels sont encore les problèmes auxquels nous pouvons nous trouver confrontés avec les fravachis? Eh bien, y a-t-il des fravachis de méchants? Est-ce que quelqu'un qui ne fait pas le bon choix rituel, alors qu'il aurait pu le faire, car la faculté de choix, on en dispose nécessairement, mais le choix ne se révèle bon ou mauvais que dès qu'il l'est pris. Et ceux qui ne font pas le bon choix rituel, ont-ils une fravachie? Évidemment, il y a des machias, n'est-ce pas? Vous savez, le mot a une connotation péjorative dans certains textes avestiques, pas tous. Péjoratif. Les machias, ce sont les mauvais hommes. Ce sont des hommes, mais ils se rangent du côté des démons. Eh bien, ces machias ont-ils une âme? Ont-ils une fravachie? Y a-t-il de mauvaises fravachies, en d'autres termes? En principe, on n'en parle jamais. Voilà. La réponse est tout simplement celle-là. Je ne peux pas. En principe, on n'en parle jamais. Mais il y a une hypothèse intéressante que Éric Pirard a avancée il y a de cela maintenant une quinzaine d'années. Une des réalités démoniaques les plus répandues dans le contexte iranien, puisqu'on la trouve dans l'Avesta, mais aussi dans les inscriptions vieux perses, et qui correspond à une des calamités les plus redoutées du monde iranien dans son ensemble, c'est la haïna. La haïna. Darius dit, puisse la haïna ne pas venir sur ce pays. Et le Yashtadist nous dit à peu près la même chose. Or, le haïna, c'est un mot négatif, mais il traduit une réalité indifférenciée dans l'Inde, la Sena, c'est l'armée. Donc, comme réalité indifférenciée, l'Iran utilisera spada, à la fois en vieux perse et en avestique. Fatalement, le sens négatif pris par Sena a contraint à opérer un glissement, changer de case, et à utiliser un autre mot pour désigner l'armée. Donc, une armée négative, l'armée ennemie, comme l'on traduit toujours, c'est pas l'armée ennemie, la haïna. Puisse l'armée ennemie ne pas venir ici, dit Darius. Ça a un sens intéressant. Mais il y a une petite question philologique dans l'Avesta, qui trouble la belle clarté de cette démonstration. Et Éric Pirard, qui est le détecteur d'anomalies le plus perfectionné que je connaisse, n'a pas manqué de la relever. Le mot haïna est utilisé sous deux formes dans l'Avesta. Ou bien il apparaît sous la forme haïnayor, celle du génitif singulier, ou bien sous la forme haïnor, qui est celle de l'accusatif pluriel. Donc il y a une opposition entre le singulier et le pluriel. Eh bien, parfois, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à faire coller la fonction et le nombre. On attendrait le singulier, mais on ne l'a pas. On a l'accusatif, donc, qui est nécessairement pluriel. Ou bien on attendrait, au contraire, le pluriel. Mais non, on a le génitif singulier. Il y a quelque chose qui n'est pas dans cette situation parfaitement compréhensible. Or, Pirard a formulé cette hypothèse que la leçon, qu'il faut retenir, ce qui est d'ailleurs philologiquement correct dans certains cas, est plutôt haïnior. C'est-à-dire que l'on n'a pas affaire au mot haïna proprement dit, mais à son dérivé secondaire adjectif, qui est d'ailleurs attesté en indien, c'est senya, en sanskrit senya. Seigneur comme adjectif est masculin ou féminin, et naturellement cette forme sera féminine. Alors, seigneur, c'est le membre d'une armée, c'est le soldat, c'est le combattant, le membre d'une armée. Alors, nous aurions affaire ici à quoi? Avec notre haïnia féminin, ce serait, bien sûr, les bandites, les femmes membres de la mauvaise armée, formant une mauvaise armée. Et si nous avons l'expression ici d'une réalité démoniaque particulière, c'est-à-dire d'une horde composée de femmes, et de femmes qui se situent du mauvais côté du point de vue religieux. L'hypothèse est assez jolie, n'est-ce pas ? On pourrait y voir effectivement la horde céleste et démoniaque, l'inversion démoniaque des fravachies positives. Voilà peut-être l'hypothèse que Pirard a faite. Elle n'a pas été bien reçue. Hein. Moi, je l'envisage comme une très belle possibilité. Je suis plutôt partisan de cette hypothèse. N'a pas été bien reçu parce que, bon, j'ai revu récemment un jugement de Cherveux sur cette possibilité qu'il semble écarter parce que, dit-il, le mot n'est pas tout à fait bien fondé dans les textes, mais il n'y a pas de raison vraiment décisive d'écarter cette hypothèse. Pas de raison vraiment décisive. En tout cas, ça remplit la case vide, n'est-ce pas, puisque faculté de choix il y a, puisqu'il faut faire le bon choix sacrificiel. La possibilité doit être ouverte de faire le mauvais. Et il n'y a pas de raison que cette faculté de choix dévoyée ne soit pas, elle aussi, divinisée, ou plutôt démonisée, et accède à un certain rang du Panthéon. Alors, autre et dernière... Non, pas, ce sera l'avant-dernière, mais je réserverai une autre difficulté pour la leçon prochaine, parce qu'elle demandera un peu plus de temps d'exposition. Mais il y a aussi quelque chose que je voudrais vous faire remarquer. À quoi ressemble une fravachie ? À quoi ressemble une fravachie ? Bon, je ne veux pas vous dire par là, je ne veux pas vous faire une description physique précise de ce qu'est une fravachie, mais la question que je pose est tout simplement celle-ci. Quel est le sexe d'une fravachie ? Faut-il se la représenter comme une femme ? Le nom est de genre féminin. Il est employé au féminin dans tous les textes, dans le Yash de 13 ou autre chose, n'est-ce pas ? Mais est-ce qu'une faculté qui est féminine, le mot qui la traduit est féminin, est-ce que la divinité est nécessairement pour cela exclusivement féminine ou non ? Je sais bien, il y a des représentations de fravachie dans l'art sassanide. On en a relevé quelques-unes. Et on nous les montre avec ceux d'entre vous qui ont vu l'exposition sur le monde sassanide au musée Tchernouski l'an dernier, ont vu que cette très belle photo du cavalier de Takibustan était bien mise en lumière tout à l'entrée de l'exposition. Or, ce cavalier de Takibustan est représenté de telle sorte que l'on voit physiquement qu'il est une femme. Ce qui a fait conclure qu'il s'agissait de la représentation des fravachis. Oui, justement. Mais il faut se méfier, justement, des modes que l'art retient pour faire comprendre ce qu'il représente. Donner à une figure humaine ou divine que l'on représente d'une manière ou d'une autre, en peinture ou en sculpture, un sexe qui n'est pas, je vais dire, qui ne va pas de soi lorsqu'il s'agit d'un guerrier, n'est-ce pas ? C'est aussi une manière de dire, attention, ce guerrier, il a quelque chose de tout à fait spécial, ce n'est pas un guerrier comme tous les autres, c'est une fravachie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le genre féminin du nom, on fait comprendre ce que l'on représente, n'est-ce pas ? En traduisant, bien sûr, en le traduisant par une réalité inaccoutumée ou qui saute aux yeux d'une manière ou d'une autre. Je vous rappellerai que l'exemple le plus frappant de cette pratique artistique, c'est ce qu'on appelle, je crois, un kenning, un signe de reconnaissance en jargon de la technique littéraire. C'est celui des représentations du grand prêtre Kirtir de l'époque sassanide. Pas cet homme qui s'appelle, aujourd'hui, l'on transcrit son nom sous cette forme, Kirdir. Et les représentations sur les bas-reliefs sassanides que nous avons de lui le montrent avec une paire de ciseaux représentés sur son couvre-chef. Pourquoi cette paire de ciseaux ? Eh bien, Kirdir, son nom s'explique étymologiquement comme Kirti Bara. celui qui porte le ciseau, littéralement. Ça veut dire probablement tailleur. Hein? Il y a d'ailleurs, tailleur peut servir de nom propre en français, je ne m'abuse. Donc, cette paire de ciseaux n'est figurée, ne se trouve là que pour nous dire, voilà, c'est lui. Hein? C'est lui, bien sûr. Hein? Ce qui est intéressant pour un linguiste à d'autres égards, c'est que la forme moyenne iranienne du nom étant Kirdir, vous voyez que l'étymologie était encore bien présente, car de Kirtibara à Kirdir, phonétiquement, il y a tout de même du chemin. Or, on avait encore pleinement conscience de l'origine du nom qui ne se lit pleinement que dans sa forme ancienne, dans la forme que nous avons restituée. Hein. Ce qui nous laisse tout de même, c'est un de ces indices qui nous laisse tout de même deviner malgré tout que même s'ils n'ont pas laissé de traces aussi impressionnantes que la grammaire de Panini, les Iraniens, eux aussi avaient très certainement une technique grammaticale extrêmement élaborée et extrêmement précise, n'est-ce pas ? Nous n'avons malheureusement pas recueilli l'expression, mais qui se trouve aussi dans des exemples comme ceci. Alors, voilà, la semaine prochaine, si vous le voulez bien, nous parlerons de cet autre détail, ce que j'appelle les détails, pas les petits problèmes connexes à la figure des Fravashi, et qui sera, cette fois, le problème de l'existence des Fravashi des dieux. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.